Allez, c'est parti, J-26 pour ce 100 miles of Istria, J-26. Et vous l'entendez à ma voix absolument délicieuse, je rentre de 2 jours d'animation. Allez, 2,5 si on est syndiqué et qu'on compte la conférence de vendredi. 2 jours en plein air avec une petite bise, avec beaucoup de pluie aujourd'hui, énormément, trop d'ailleurs. 2 jours difficiles pour ma voix, avec un départ nocturne ce matin suite à une excellente nuit de sommeil de 2h34 selon ma montre Suunto. Allez, je démarre très tôt le placement de produits dans ce podcast. Tu pourras tout à l'heure, Fred, parler du camper van de Jeanlin, je t'en autoriserai. Et oui, parce que je suis avec Fred Bousseau, on taille la route tous les deux. On rentre. Voilà Fred qui vous a fait ces belles images pour suivre un peu la course. Vu que niveau FFA, on n'était pas ultra chaud. Et bien c'est Fred Bousseau avec Try Endurance Mag et Scott qui a mis quelques ronds pour permettre tout ça. Qui vous a proposé les belles images pour suivre la course des championnats de France que j'ai commenté départ et arrivée. Donc, une grosse journée aujourd'hui. Et avant de commencer par ce que j'ai fait de ma journée, et puis surtout donc revenir sur ces championnats de France, on va parler du thème du jour pour Istria. Alors de quoi va-t-on parler ? Ben je vais en profiter pour déjà rebondir, non pas sur un ballon, mais sur une question, celle de Frédéric Delabrouille, le patriote, un des emblèmes de la nation du Carmi. Frédéric, un vieux de la vieille, un de la première heure, il a dû s'inscrire en août 2020, il n'a jamais raté un paiement mensuel. J'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer l'an dernier au Grand Trail du lac de Serre-Ponçon. Tiens, on a un monsieur qui fait des zigzags devant en voiture. Ça va bientôt faire un accident en direct. Ce sera incroyable, on va augmenter l'audience. Frédéric qui nous pose une question sympa, plutôt issue d'une remarque, puisque c'est vrai. C'est vrai qu'au Trail de Vulcain, qui a eu lieu il y a 2 semaines, je me suis encore laissé emporter. C'est l'ancien Hugo qui s'est exprimé, celui qui faisait des départs rapides et qui sabordait ses courses. Et Frédéric me dit, alors il m'a pas dit ça comme ça, il m'a dit ça un peu plus méchamment, mais bon, je vais retravailler le texte pour qu'il paraisse plus gentil. Frédéric me disait, est-ce que lors de ce 100 miles of Istria, Hugo, tu vas t'obstiner à suivre le groupe de tête? Alors, mon pauvre Frédéric, je t'arrête tout de suite, il y a Jim Wamsley au départ. Donc à aucun moment je pourrais le suivre. Enfin, en tout cas, pas plus de 10-15 minutes, avant bien sûr d'agoniser. Donc, ça n'est pas du tout la stratégie. Pourquoi ? J'ai suivi Clément Desilles et Alexandre Béraud lors du trail de Vulcain. Je l'ai expliqué dans le retour que j'ai publié lundi 6, 7, 8, 9, vendredi 10 mars. Et donc, il y avait une raison. Et à Istria, je serai seul dans ma bulle. C'est-à-dire que devant moi, il peut y avoir uniquement Jim ou 15 personnes. J'en ai rien à cirer. Je vais... Bon, j'ai pas eu le temps encore, mais je vais le faire. Et ça sera l'objet d'un podcast quotidien. Je vais établir les temps de passage. J'ai casquette verte l'an passé. Bon, il a fait une performance médiocre, mais on va quand même regarder un petit peu. Il était blessé avant d'y aller, l'animal. J'ai Robert Heinal, qui a fait 18h24, moi j'estime que du coup je peux prendre 3 quarts d'heure sur lui, 19h, 19h15. Et j'ai qui d'autre pour les temps de passage? Non, je crois que c'est tout. Donc voilà, je vais regarder un petit peu tout ça. Après je vais affiner avec mes connaissances du terrain. Donc Robert et Alex m'ont dit que c'était quand même très très peu technique. Hein. Et aussi regarder avec le kilométrage et le dénivelé si je suis OK avec leurs allures pour faire ma petite moyenne entre ce que je pense être bon pour moi, ce qu'a fait Alex en étant diminué et ce qu'a fait Robert en étant un petit peu meilleur que moi. Voilà. Et une fois que j'aurai ces temps de passage, si tu veux, Fred et les autres, je vais les respecter et surtout je vais essayer d'en mettre le maximum dans les 3 premières heures, ce qui, je pense, est le plus intéressant à faire, c'est vraiment se museler pendant 2-3 heures, puisque après il y a une petite fatigue articulaire qui fait que au bout de 4 heures, vous n'allez pas vous amuser à faire de la VMA. Donc en général, si on a passé 2-3-4 heures un peu sages, derrière, la course se passe plutôt bien, même si on peut ensuite varier un peu les allures. Donc voilà Fred, pour répondre à ta question, je ne vais pas suivre le groupe de tête et je ne vais d'ailleurs suivre absolument personne. Je serai seul dans l'effort avec mes temps de passage, ma petite feuille papier qui sera plastifiée pour l'occasion, avec mon chrono, voilà. Je serai vraiment dans ma bulle et je n'en aurai strictement rien à faire de ce que font les autres. Alors, j'ai déjà plus de voix, c'est emmerdant. Je vais boire un coup. Je suis dans la voiture avec Fred Bousseau et je suis aussi avec Hugo 2, le covoitureur de Blablacar, qui finalement, habitant à Millau, pratique lui aussi les sports outdoor. Donc, si jamais tu as une question, Hugo, tu n'hésites pas. Je te passerai la moumoute que j'ai mis sur mon téléphone pour enregistrer sans le bruit de la voiture. Et oui, le Duc est habile. Il commence à domestiquer la technologie. Méfiance. Bientôt, je serai informaticien. Fred, salut.
Salut, salut à tous. Et ouais, un week-end avec Hugo, ça peut se raconter. Je pourrais même faire un off.
Alors non, attention Fred, tu racontes pas tout ce qu'on s'est dit en off. C'est beaucoup trop personnel.
Ni ce qu'on a fait cette nuit non plus, dans le van.
Ah oui, puisqu'on a dormi tous les deux dans le van. Alors par contre, chacun avait sa chambre. Toi Fred, tu étais à l'étage. Et puis moi, j'étais au rez-de-chaussée.
Ouais, et il faut quand même préciser qu'à 4h du mat, mon petit Hugo, il est obligé d'aller faire pipi dehors et de réveiller tout le monde dans le van, quoi.
Alors déjà, non, c'était pas 4h, c'était 3h18. Et oui, effectivement, j'ai essayé même d'y... Je voulais y retourner une deuxième fois, mais je me suis dit, quand même, réveiller Fred deux fois, ce serait trop cruel. Il a un métier, demain, faut qu'il nous fasse le live. Moi, ça va, je vais raconter des conneries dans le micro, mais bon, Fred, s'il se plante sur la route, je m'en voudrais. Fred, si t'es d'accord, on va analyser ces championnats de France. Alors moi, je les ai vus à travers les réseaux sociaux, les stories des copains, les différents groupes WhatsApp, les lives que tu as publiés, les deux points de chronométrage qui étaient sur le parcours et les impressions sur l'heure d'arrivée. Et toi, à l'inverse, tu les as complètement suivis en voiture pour te placer à combien de points de passage aujourd'hui ?
Aujourd'hui, 5 plus départ-arrivée, donc ça fait 7. Et hier, pareil, 7, hein, un suivi très serré pour essayer de faire vivre au mieux. Et puis, c'était pas simple, et on n'était pas beaucoup aidé, tu l'as dit. On a un gros soutien de la FFA qui, en plus, tout à l'heure, a eu le petit malheur. Puisque là,
Alors, c'est de l'humour, il y a zéro de la FFA.
Ah oui, pardon. Ah oui, il y a zéro, ouais, c'est vrai. Heureusement que tu me le rappelles.
Oui, parce que tu avais demandé qu'ils te défrayent juste les frais de route, hein, et tu leur offrais le live, et ils n'ont pas voulu, c'était trop cher.
Ouais, je sais pas, on va en reparler, mais bon, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un là qui m'a dit, mais finalement, peut-être que les images d'un championnat de France nous appartiennent, donc là, heureusement qu'on fait 5 heures de route, qu'on est bien assis, parce que je crois que on aurait pu faire un vrai sketch, on aurait appelé Johan Mettet, et je pense que là, les images de la FFA qui appartiendraient à un média sur un championnat de France, bon, on va falloir qu'on revoie des choses, qu'on lui apprenne des choses à ce garçon.
Et même Olivier Guy, qui officie au sein de la FFA, n'a pas pu approuver ce propos. Il a été obligé de calmer son jeune.
Ouais, il a essayé de détourner la conversation pour dire que finalement, quand on faisait des lives payés par la FFA, bah, tout se passait bien.
Alors Fred, aujourd'hui, tu as suivi le live de la course. On va parler d'aujourd'hui parce que c'est frais, puis on reviendra au trail court tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé? La première impression avant d'aller chercher les résultats.
Première impression, un peu comme sur le cours, on en parlera après, mais c'est l'avènement d'une jeune génération qui effectivement pointe le bout de son nez depuis 2-3 ans et puis qui se révèle, s'accomplit et qui finit par aboutir à de beaux résultats. Hein. Aujourd'hui, on a deux jeunes, Chassagne qui progresse, qui va au bout de ses ambitions, qui va au bout de ses rêves. Donc une super victoire pour Baptiste. Derrière Benjamin Roubiol, une surprise pour beaucoup qui finalement n'en est pas une parce qu'en fait il suit le même chemin que Baptiste. Juste derrière un ancien, mais c'est vrai que les anciens ils sont petit à petit poussés un petit peu dans leur retranchement. Hein. On trouve un Clément Durance, aussi un nouveau nom, un Rémi Brassac, quatrième et cinquième. Sixième, il me semble que c'est
Martin
Kern. Après, on trouve aussi un nouveau nom,
Gauthierio.
Voilà. Et puis aussi un ancien, l'ancien champion du monde, Sylvain Court derrière. Donc voilà, on a l'impression que ça rebrasse un petit peu les cartes et des nouvelles têtes se révèlent, mais se confirment.
Alors, un point intéressant à noter, il est toujours dans le classement, Yann Blanchard, le 11e. Mais il est inscrit avec un club de triathlon et il ne portait aucun maillot lors de la course. Alors, normalement, la FFA va le disqualifier.
Voilà, alors ça, moi, je rentre pas et j'évite surtout aussi d'avoir des conversations avec les arbitres de la FFA parce que le seul arbitre qui m'est vu aujourd'hui, et quand j'étais sur la route, il m'a dit qu'il fallait vite que je bouge parce qu'il y avait un coureur qui arrivait derrière alors que le coureur allait tourner à droite et que je pouvais pas le gêner. Et je lui ai juste dit, mais visiblement c'est pas une course de vélo, il va pas venir percuter le véhicule, et tout s'est bien passé.
Ok, alors on a cité cette jeune génération, mais ça c'était pour le classement masculin, parce que pour le classement féminin, on a quelqu'un qui s'est affirmé dans le paysage depuis longtemps. On va pas dire qu'elle est âgée quand même, quoi qu'elle est M0. Annelise Rousset qui a remporté la course. Manon Boire qui, depuis un an ou deux, commence à titiller un peu et à venir dans l'équipe de France. Et puis Jocelyne Poli qui, elle, par contre, est Master 3.
Ouais, Jocelyne, c'est des valeurs sûres. Comme tu dis, tu parles de Manon qui titille l'équipe de France. Donc ça sera sa deuxième sélection, puisqu'elle ira au championnat du monde en Autriche. Mais elle a un papa qui s'appelle Patrick Boire, que tout le monde connaît, et qui est un peu de la trempe de Jocelyne Poli. C'est-à-dire que quand il faut être présent sur une course, bah, il est présent. Je crois quatrième la semaine dernière à l'Ultra du Ventoux, aux 70 km. Et bien là, Jocelyne Poli, M3, voilà, pareil, hein, on connaît ses performances. Vainqueur du Grand Raid de la Réunion, troisième de l'UTMB. Donc voilà, c'est des valeurs sûres, pas des surprises. On sait que ces gens-là, quand ils prennent le départ, ils vont au bout. Hein.
Alors pour faire un peu les tops et les flops justement sur ces dames, on va parler des premiers, on va pas faire 50 personnes. Annelise, tu m'as marqué qu'elle a fait un résultat qui était attendu. Manon également, Jocelyne également. Est-ce que c'était le podium que tu avais pronostiqué?
Non, j'avais pas tout à fait pronostiqué ce podium-là. Donc j'en ai 2 sur 3, voilà. Mais je laisserai à Nico Fréret le soin d'annoncer les résultats de nos pronostics respectifs du week-end en tant que média.
Oui, parce que tous ceux qui dormaient dans le gîte La Bresse, au-delà de découvrir un joli bâtiment, on a aussi fait les pronostics. Tu as marqué que Aurélie Grange-Paul, alors moi je ne la connaissais pas du tout, je pense très peu de monde également, bon les Pyrénéennes, je ne connais pas très bien les Pyrénéens. Aurélie Grange-Paul, ça a été ton coup de cœur, ça a été ton top chez les dames.
Ouais, c'est une fille qu'on a découvert aujourd'hui, voilà, qui est venue et qui est revenue sur les talons à la Roc de Jocelyne et qui a failli prendre la troisième place. Donc quelqu'un à suivre, ouais, une révélation aujourd'hui, c'est un nouveau nom, voilà.
Ouais, elle termine à 1 minute 48 de Jocelyne Poli, donc ça allait pas mal. Et derrière, Fred, tu as Laure Paradan. Par contre, ça, c'est ton flop. Laure Paradan qui termine, oulala, 22 minutes derrière Aurélie.
Oui, Laure Paradan, championne de France en titre, hein, de trail long, dans le Cantal l'an passé, sur la Passe Tourelle, et qui là prend 50 minutes, je crois, à peu près, de mémoire. Donc 50 minutes sur Annelise, sur 68 km, ça fait presque 1 minute au kilo. Alors ça reste une cinquième place, mais effectivement, quand on regarde le chrono, voilà, c'est mon flop du jour.
Ok, bah allez, on va passer à ces messieurs maintenant. Alors ces messieurs, tu m'as marqué en top Baptiste Chassagne, Benjamin Roubiol, Romain Maillard, Clément Durance et Rémi Brassac. Ça veut dire que dans ces 5 premiers, il n'y en a aucun qui t'a déçu, ils sont tous plus ou moins à leur place.
Ils ont répondu présent au rendez-vous, tous. Baptiste, il l'avait comme objectif. Benjamin Roubiol, personne ne le connaissait trop, donc voilà. Mais Benjamin Molins de chez Scott l'avait mis en vainqueur. Donc voilà, c'est pas un inconnu. Romain Maillard, moi je le suis depuis longtemps et je sais très bien ce qu'il est capable de faire. Et ce matin au départ, je lui ai dit la course elle est pour toi parce que tu es un gars des grands rendez-vous. Et voilà, donc c'est pour moi des confirmations. Après, Clément Durance, Rémi Brassac, tout ça, c'est des gens, on connaît leur performance. Rémi Brassac, je crois, il fait 4 ou 5 au Templiers cette année. Clément Durance, il a gagné une course il y a peu de temps. Donc oui, c'est des révélations, alors qu'il y a une moto qui passe très très vite là.
Hein. Ouais, celle-là, on a dû l'entendre malgré la bonnette. Dans les déceptions, tu nous mets Martin Kern, Gauthier Herriot, Kevin Vermeulen et Sylvain Court.
Alors Kevin Vermeulen, la déception parce qu'il était vraiment venu pour gagner. Hein. Il avait des temps de passage prévisionnels. Il avait annoncé, je crois, moins de 5h30 ou moins de 5h45. Donc il était vraiment parti pour gagner. Et c'est vrai que vu ce qu'il avait fait précédemment, je crois que dans nos paris, presque tout le monde l'avait mis devant. Après, tu me disais qui d'autre Martin Kern, oui, c'est en plus une déception parce que je pense qu'il rêvait aussi d'une nouvelle cape en équipe de France, de porter une nouvelle fois le maillot. Et puis c'est vrai que c'est une déception, d'autant que j'ai discuté avec lui à l'arrivée et lui-même était très déçu parce qu'en fait, il avait très bonne sensation. Mais en fait, il a eu très vite des crampes et il n'a pas pu s'exprimer. Il n'a jamais trouvé que ça allait trop vite. Il n'a jamais vraiment été en difficulté. Mais voilà, il a eu des crampes dès le 15e kilomètre. Et puis Gauthier Herriot, c'est aussi une déception, je pense, pour lui. Mais c'est vrai que à l'heure, pour les défendre un petit peu, on peut dire que eux, c'est des purs montagnards, c'est des coureurs qui aiment le dénivelé, qui aiment la difficulté, qui aiment le gros caillou et grosse descente technique. Et là, c'est vrai que le parcours était plutôt roulant pour eux. Donc, c'est vrai que c'est. On l'a dit, hein, et je l'ai écrit aussi dans Endurance la semaine passée, le parcours n'est pas du tout adapté au profil qui aura lieu aux mondiaux, puisque là, c'était 68 km pour 2600 mètres, et aux mondiaux, ce sera 86 km pour 6000.
Ouais, par contre, je me fais pas trop de soucis. Hein, si Benjamin Roubiol est en équipe de France, c'est un bon montagnard et je pense Baptiste est quelqu'un qui peut pas mal s'adapter aussi, on l'a vu à la CCC. Dans les déceptions, on peut ajouter mon coach, hein, Patrick Bringer, il est quand même 25e à 45 minutes de la victoire. Bon, il a eu un pépin il y a 3 semaines qui l'a empêché de réaliser son dernier bloc d'entraînement. Dans les déceptions, on peut citer deux abandons, Mathieu Delpeuch et Mathieu Simon. Mathieu Delpeuch qui revenait après une belle blessure et qui nous disait que physiquement il avait retrouvé un top niveau, peut-être son meilleur, mais malheureusement ça ne l'a pas fait aujourd'hui. Et Mathieu Simon, troisième des Templiers, des douleurs inexpliquées dans les jambes, mais il a arrêté. Ça, Fred, c'est des jeunes coureurs, tu vas les revoir encore souvent. Qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui? Parce que c'était quand même une course intégralement sous la pluie, ce qui n'est jamais facile.
C'est des déceptions, mais les premières déceptions, c'est pour eux. C'est vrai qu'ils misent beaucoup. C'est un groupe, ils se connaissent tous. Hein. Mathieu Delpeuch est très proche de Nico Martin. Nico Martin en équipe de France, on sait forcément qu'ils en parlent. Ils sont aussi proches avec Baptiste Chassagne et d'autres. Toi aussi. Forcément, ils doivent être déçus. Mais ils vont savoir rebondir et comme tu le dis, ils ont encore super années devant eux. Donc, faut qu'on fasse attention, il y a la police. Mais voilà, écoute, on va les suivre et ils auront des jours meilleurs, c'est sûr.
Alors après, moi, d'un œil observateur, je me dis que quand même Martin Kern, qui se permet de prendre quelques secondes d'avance sur le groupe de favoris dans les 10 premiers kilomètres, alors que c'est une portion roulante, c'était peut-être un excès de confiance. Et quand j'apprends que Mathieu Delpeuch a relancé le groupe dans des descentes, alors qu'il avait derrière lui des Clément Durance, moins de 2,30 sur marathon, des Kevin Vermeulen qui ont une sacrée aisance à plat, Baptiste Chassagne, je me dis que c'était peut-être pas à lui de faire l'effort à ce moment-là. Il aurait fallu en garder. J'ai l'impression que Mathieu était dans une très grande forme et que du coup, il l'a un petit peu gâché en balançant les cartouches dès le début. On va passer au trail court, Fred. Alors, trail court, chez les dames, t'as pas été chiant. Les 5 premières, t'as mis que c'était un top. La gagnante, Clémentine Geoffrey. La deuxième, Louise Serban-Pennoit. La troisième, Lucille Germain. La quatrième, Noémie Vachon, qu'on connaissait un peu moins bien. Et la cinquième, Marie Goncalves. Tu as dit que toutes ces femmes avaient fait une bonne course.
Ouais, c'est un constat, je pense, général. Et pour ceux qui les connaissaient, bah, c'est pas forcément une surprise, parce que c'est pareil, hein, c'est la jeune génération qui pointe le bout du nez. Alors, bah, comme on fait Mathieu Delpech, Mathieu Simon, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ratés à des moments et des coups d'éclat, mais c'est vrai qu'il faut passer par ces échecs pour apprendre. Donc forcément, bah, c'est, voilà, hier, elles ont tout coché. Elles ont réussi à être présentes le jour J, bien préparées par leurs entraîneurs respectifs. Tu l'as dit, Clémentine, elle a déjà été en équipe de France une fois, en 2019, elle termine 11e des mondiaux. Louise, bah, c'est une petite jeune qui monte, qu'on a découvert il y a un an et demi. Lucille Germain, bah, on la connaît depuis quasiment 4-5 ans. Hein. Elle a fait des beaux résultats en espoir, en course en montagne, en trail, aussi au championnat du monde en Patagonie, avec l'équipe de France. Et puis après, on a Marie Goncalves. Et puis j'ai plus le nom de la... Et puis Noémie Vachon, voilà, donc des nouvelles têtes. Et surtout, c'est qu'a priori, il y avait 5 places pour l'équipe de France chez les filles. Et ça, il est fort probable, on va le savoir dans la semaine, que ça soit ces 5-là qui aillent. Donc aussi un vrai élan de jeunesse, de rafraîchissement et de sourire, parce qu'elles ont toutes des jolis sourires.
Tu peux pas me dire le contraire, Hugo.
Et sixième, j'ai pas regardé leur sourire, Fred. Et sixième, Christelle De Waal. Alors là, qu'est-ce que c'est, Christelle? Elle commence à être un peu âgée. Le parcours était un peu trop technique. Pourquoi Christelle est un petit peu loin alors qu'elle était elle aussi membre de l'équipe de France de course en montagne?
Bah parce que c'est, comme tu le dis, c'est la plus âgée, hein, de ce groupe de 6. Et puis bah, on voit aujourd'hui que, on l'a vu aussi, on verra sur le trail court chez les hommes, hein, qu'aujourd'hui les M0, M1 sont facilement relégués autour de la 12-15e place. Donc bah, Christelle, elle s'est battue avec ses armes et on sait qu'elle n'est pas à son avantage quand ça court trop vite et trop longtemps. Il faut que ce soit très raide et plutôt plus c'est long, mieux c'est. Et voilà.
Ok, on va passer aux messieurs maintenant, Fred. Alors, tu n'as pas jugé la performance de Thibaut Barognan, Loïc Robert, Thomas Cardin et Arnaud Bonin. Tu les estimes à leur place, 1, 2, 3 et 4. Par contre, tu as eu un coup de cœur pour Simon Guignard. C'est ton préféré, celui qui, selon toi, a fait sa meilleure course. Tu as beaucoup aimé Clovis Chavrot, tu as beaucoup aimé... Benoît Galland, tiens, il est encore senior Benoît. T'as vraiment beaucoup aimé Loïc Roland, petite surprise aussi, ancien cycliste, et Damien Humbert, donc de 5 à 9.
Ouais, là, il y a des nouveaux noms aussi qui apparaissent. Hein. Simon Guignard, qui a été lui-même le premier surprise. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a éclaté en sanglots, il s'est mis à pleurer, il a absolument pas compris ce qui se passait pour lui. Donc, il s'est même fait doubler, puisqu'il était quatrième à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Il fait 5, mais je pense que pour lui, il était tellement dans un autre monde que voilà, il se termine à une seconde. Et alors, au début de la montée, il était troisième. Donc, je pense que lui, il s'est contenté presque peut-être, je veux dire, d'une cinquième place. Il faut aussi qu'il mûrisse dans ça et qu'il apprenne aussi à avoir ce rôle maintenant de favori sur des courses et de se dire, bah, je peux aller chercher des podiums, des médailles. Voilà, Loïc Roland, alors moi je ne connaissais pas, tu m'as dit que toi tu le connaissais. Damien Humbert, tout ça, c'est des coureurs qu'on voit régulièrement. Mais,
qui sera la Transvulcania, Damien Humbert.
Qui confirme aussi leur potentiel et qu'il va falloir compter sur eux d'ici 2030, quoi, dans les 5-6 prochaines années.
Et le plateau sur Trailcourt, c'est toi qui l'as dit le premier, puis après, nous on est un peu abrutis comme speaker, donc on a repris la phrase. T'avais dit que c'était un niveau européen, ce Trailcourt français. Ton premier flop, justement, bah, c'est le champion d'Europe en titre, Sylvain Cachard, qui termine à la 11e place, Sylvain, après avoir mené la course tout du long. Il a lâché, il y avait peut-être 20 minutes de course de trop. Et du coup, 10 personnes lui sont passées devant.
Ouais, Sylvain, pareil, hein, on l'avait tous mis en favori de la course. Je pense qu'il n'y en avait pas un qui ne l'avait pas mis, ou alors il prenait un risque. Et bien finalement, il est passé à côté. Alors, est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore sur son titre de champion d'Europe et qu'il a du mal à retrouver un second élan pour se remotiver? En tout cas, oui, il a fini la course avec le sourire, avec la banane. Voilà, moi, je l'ai vu après. Je lui ai dit, au moins, tu as le panache, hein, tu vas, tu attaques. Il fait du Sylvain Cachard. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé le voir gagner.
Et puis après, tu as justifié la constance de Nicolas Martin. C'est vrai qu'il n'était pas dans sa meilleure forme. Donc, il a fait avec les armes du jour. T'as souligné la défaillance un petit peu d'Anthony Felber. Alors il me le disait aujourd'hui, là, il est venu applaudir son copain Baptiste Chassagne. Il me le disait, ça manquait un peu d'entraînement à pied. Il le savait, mais justement, il avait envie de venir prendre une petite fessée pour que ça le relance pour la saison. Parce que lui, ses objectifs seront estivaux avec le marathon du Mont-Blanc, Sierre-Zinal et une découverte sur l'OCC pour Anthony Felber. Et donc aujourd'hui, t'as déçu, mais sans doute, il va te faire plaisir cette année.
Ah, c'est un vrai Anthony, c'est un vrai futur champion. Il peut gagner des grosses courses ou en tout cas faire des grosses places. Donc il est aussi lui la relève. C'est vrai que bon, il est venu peut-être avec un peu plus d'ambition. Il finit, je crois, au 17e ou 18e. C'est vrai que c'est un petit peu loin de ce qu'on pouvait penser. Même s'il lui manquait des kilomètres, on aurait quand même pu penser qu'il aille accrocher le top 10. Donc oui, c'est un petit peu mon flop aujourd'hui, ouais.
Et aujourd'hui, les gens qui regardent le trail depuis un an ou deux ans, ils connaissent peut-être pas forcément ce nom-là, parce qu'il fait des courses un peu plus typées skyrunning, donc un peu moins médiatiques. Adrien Michaud, il est 17e, il t'a déçu un petit peu au même titre qu'Emmanuel Messin.
Ouais, c'est ce qu'on disait avant, c'est voilà, c'est ces coureurs qui jouaient les avant-postes il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, ils ont du mal à s'exprimer parce que voilà, une page est en train de se tourner. Donc ils sont toujours là. Hein. Aujourd'hui, on a vu Julien Rancon qui fait 29,45 au 10 km de Villeurbanne. Manu Messa qui est champion de France master de cross la semaine passée. Mais c'est vrai, quand ils sont face à la jeune génération qui pousse, qui s'entraîne de plus en plus, qui est de plus en plus performante, forcément, ils prennent. C'est juste le poids des années.
Et on a pour finir deux énormes déceptions. La première, c'est Boris Orlac. Moi, j'ai été très déçu parce que Boris, je savais que le début de parcours n'était pas du tout pour lui. Ça descendait, c'était technique. C'est un ancien très bon cycliste dans les élites nationales. Il s'entraîne avec Romain Bardet. Il a une force, une puissance phénoménale, mais la descente, c'est un peu en deçà. Et je me suis dit, il va se faire larguer, il reviendra plus tard. Boris a fait une bonne descente. Il est arrivé en bas de la descente dans le top 10. Et en fait, il s'est fait larguer sur les parties qui lui correspondaient le mieux. Et Yann Marguerite Sol, qui était peut-être le meilleur descendeur, déjà, il n'est pas arrivé en bas premier. Et après, ça n'a jamais répondu. Il a fait que décroître pour finir 41e derrière mon ami Florent Jubeau. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué chez ces deux coureurs, Fred ?
C'est les écarts de performance. C'est vrai que Boris Orlac, il fait une grosse saison l'an passé, on le découvre. Il fait un gros nid d'aigle, il fait un gros Sierre-Zinal. Il rentre dans le Team Scott. Jeanne Marguerite, il fait une grosse Skyrun. Il fait une grosse saison l'an passé aussi, plutôt sur des courses de montagne. Là, on savait aussi qu'il était, pour ce qui est de Jeanne Marguerite, qu'il n'était pas forcément prêt. Mais nous, il nous avait dit, parce que c'est quelqu'un qui est très joueur, très blagueur et qui aime aussi se lancer des défis, il voulait partir en tête pour tenir, au moins passer devant la caméra d'un autre cadreur qui était là pour le live, qu'il le connaissait. Donc il lui avait dit, au cinquième kilomètre, je passerai devant toi. Comme tu le dis, en bas de la descente, il n'était déjà plus en tête. Il n'est pas passé. Donc ouais, c'est un petit peu la déception parce qu'il a aussi le panache et l'envie d'animer les courses. Là, on l'a pas vu animer grand-chose. Et puis, Boris Orlac, je le mettais dans le top 10. D'ailleurs, comme Théodore Klein, on n'a pas parlé de Théodore Klein, mais Théodore Klein, c'est aussi la déception du week-end. Hein. Parti en tête avec Loïc Robert, Sylvain Cachard, Théodore Klein. À un moment, on avait ce trio-là, qui était mon trio, d'ailleurs, sur le podium des pronostics. Finalement... Sylvain Cachard et Théodore Klein sont passés à la trappe.
Ouais, Théodore, il est arrivé 20e. Alors lui, il ne souriait pas du tout, hein, contrairement à Sylvain. Un petit mot, Fred, pour conclure ces championnats de France. On disait que ça allait être les plus relevés, les plus denses. Je crois qu'on n'a pas été déçus. On va regarder Innsbruck avec des yeux d'enfant maintenant.
Ouais, nouveau coureur. Moi, je suis aussi content de voir que Baptiste, il avait eu une troisième place. Il est passé à la première. Que Thibaut Barognon, finalement, il n'avait jamais eu de titre officiel. Et il a des grandes courses à son palmarès, des super places d'honneur, des super chronos à Cerzinal, à Zegama. Mais il lui manquait ce titre. Donc, c'est un titre qui récompense aussi sa carrière. Il ira au championnat du monde sur un parcours qui va en plus beaucoup plus lui correspondre. Donc moi, j'attends vraiment quelque chose de très très fort de la part de Thibaut. À mon avis, il faudra vraiment mettre une pièce sur lui, sur le 44 km, une distance qui lui convient très très bien. Puis après, moi j'ai trouvé génial les 5 filles là, qui sont les 5 girls qui ont des super sourires, des super visages, qui sont jolies, enjouées, heureuses d'être là. Non, pas trop. Et puis, je suis sur le long. Le petit flop global, ça serait sans doute le manque de densité sur le trail long. Parce que mis à part,
Toi, tu voulais Speller et Garivier.
Non, je parle chez les filles. Le long femme. Non, le long homme, il y avait un très beau plateau. Après, on aurait pu avoir, Garivier, Speller, Germain Grangier, Aurélien Dunampalaz, pourquoi pas François Denne aussi. On avait un très beau plateau. Chez les femmes, c'était quand même plutôt réduit à 3-4 athlètes qui ont tenu leur rang et qui se sont battus. Mais battus avec leurs armes et à leur niveau, ce qui fait qu'en fait, au bout de 20 km, le classement final était déjà plié.
Ok, merci Fred. Moi j'ai la voix complètement défoncée avant de rentrer vers 20h30 et de me doucher parce que là je ressemble plus à un sanglier qu'un humain. On va laisser le mot de la fin à notre covoitureur qui va bouffer du trail pendant encore 3 heures. Hugo, ça va, on ne saoule pas trop?
Non, ça va, très intéressant. Après j'avais du coup quelques questions.
Ah putain, il a noté des questions! Il va nous prendre une heure!
À vous poser par rapport à ce débrief. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui auraient été devant sur un parcours typé plus haute montagne du coup que Mio, comme au Mondiaux? Du coup, est-ce que la sélection...
Putain, il appuie pile là où ça fait mal, Fred.
Alors, je pense que ce qui est très intéressant, notamment sur le cours, c'est qu'on se retrouve en fait avec deux très 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 bons coureurs de course en montagne sur du technique et des parcours engagés. Donc, un peu par chance, l'équipe de France va être composée de coureurs qui ont exactement le bon profil. Sur le long, si le parcours avait été différent, il est probable que ça aurait peut-être changé un petit peu la donne, notamment au niveau du déroulé de la course. Je pense que ça aurait peut-être été groupé moins longtemps, parce que ça a quand même été groupé jusqu'à la moitié, à la mi-course, où je crois au 30e kilomètre, il y avait une minute entre les 10 premiers. Et après, ça s'est un petit peu égrené, mais je pense qu'un parcours technique aurait sans doute aussi fait venir d'autres athlètes. Il y a d'autres athlètes, notamment chez les femmes, qui seraient venus et qui ont fait faux bond parce que le parcours ne leur revenait pas. Mais comme on dit, les absents ont tort dans ce genre de situation. Alors Sarah Veuil, j'ai eu l'explication, c'est qu'en fait, elle s'est cassée une côte il y a un mois. Donc en fait, elle n'a pas du tout pu se préparer. Voilà. Fiona Porte n'a pas voulu faire le déplacement. Hilary Girardi était blessée et aussi a un problème qu'elle n'a toujours pas la nationalité française. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc on avait 3 coureuses de montagne, mais bon, qui ont des bonnes raisons pour pas venir. Et voilà, et ça laisse de la place aux autres. Donc c'est aussi ça, les opportunités. Tu peux repasser à Hugo.
Ouais, t'en avais d'autres, Hugo?
Oui, j'avais une autre question. C'était la stratégie de Thibaut Barognon d'être parti, je pense, moins fort que les 3 premiers. Et votre avis sur cette stratégie, du coup, qui a été finalement payante?
Putain, mais il a suivi la course en plus, hein. En fait, il était juge arbitre pour la FFA, il nous l'a pas dit, il va nous allumer tout à l'heure. Ouais, Thibaut, il est parti un peu en retrait, Fred, c'est vrai, hein. Il était toujours dans le top 5, mais toujours il avait 10, 15 secondes, il était jamais en train de sauter sur le premier quoi, comme l'a fait Sylvain.
Ouais, je pense qu'il a fait vachement à l'expérience et parce qu'il se connaît super bien, donc il a géré sa course. Après, il y a un autre élément important, c'est qu'il se connaît, il gère sa course, il gère ses événements aussi. Il est parti avec un sac.
Oui, quelle horreur!
De Loïc Robert, qui est parti sans rien. Et est-ce que le fait de pouvoir s'alimenter un peu quand il voulait a été un élément favorisant sa victoire? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ouais, il a une stratégie, en tout cas, de course d'attente. Et ouais, Sylvain avait un sac, mais qui était peut-être moins plein, je sais pas.
Ouais. T'as d'autres questions, Hugo, encore ?
Pour être un petit peu plus chauvin, quelle est la place de Mio dans le monde du trail, un petit peu
Bon, on connaît pas, nous. Non, c'est beau, c'est les Templiers, Fred. Avec les Patriotes, on est allé aussi voir l'hivernal des Templiers cet hiver, c'est vraiment sympa aussi. Mais les Templiers, putain, moi là, rien que d'être revenu à Millau, tu vois, j'ai. Alors ça s'intègre pas dans ma saison, puis je crois que c'est un week-end où je travaille, mais vraiment ça me. Ah, j'ai envie de recibler les Templiers un jour, toi Fred?
Ah bah moi j'ai connu les Templiers presque au début quand c'était du côté de Nantes, Cantobre, donc sur des super paysages. Aujourd'hui moi j'adore revenir ici, c'est pas facile d'accès pour nous qui habitons dans les Alpes.
Mais ça fait vacances un peu.
Et en tout cas ouais j'adore, je trouve que c'est un vrai dépaysement, je me trouve complètement ailleurs. La cité de Pierre qui est un petit peu au-dessus de Millau, comme je dis à Guillaume, ça a vraiment des allures de parc américain, de grand parc américain, alors que je veux dire qu'on a quand même un arc-en-ciel devant nous qu'il faudrait pouvoir puisse montrer.
Oui, mais c'est un podcast, Fred.
Ah mince, on peut pas voir. Là, ça vaut le coup. Non, ouais, Millau, capitale des sports à outdoor. On dirait que Chamonix est la capitale mondiale du trail et de l'alpinisme.
Ah ouais, alors Gilles Bertrand, il est pas d'accord.
Ah bon, alors après, ce sera Millau, capitale des sports à outdoor. On sait que c'est fort en parapente, c'est fort en VTT, et surtout, on peut le pratiquer toute l'année, ce que nous, on peut pas faire dans nos montagnes.
Ouais, moi j'aime bien aussi le dépaysement, alors du coup pas de Millau, mais quand on va vers la Roque-Sainte-Marguerite, vers Cantobre, on avait logé une fois au village de Nantes, Perolo, j'y ai jamais logé, mais j'y suis passé 2-3 fois, c'est quand même sympa aussi, ça a de la gueule.
Mais du coup, merci à vous pour m'avoir un petit peu expliqué le trail, c'était cool d'en savoir un peu plus.
Bon allez, maintenant on va faire une petite pause, on va aller chercher le Roquefort dans le coffre avec quelques noix. Et on va se restaurer. Allez, à demain !